Bonjour à tout le monde et bienvenue chez Europe & Roll. Vous n'êtes pas encore parti en vacances? Tant mieux, parce que pour aujourd'hui, nous avons préparé une émission spéciale consacrée entièrement à l'Allemagne, notamment l'Allemagne de l'Est. On vous présentera la musique allemande qui nous amène l'été, je vous promets. En plus, on vous donnera toutes les informations sur Cinefleur, Kino im Fluss, qui avait lieu à Nancy la semaine dernière. Pour l'ouverture à l'autre canal, les organisateurs ont projeté Goodbye Lenin, un film culte d'Allemagne. Mais avant de parler sur l'acteur très mignon Daniel Brühl et de Berlin de l'Est, écoutez Margot avec les dernières infos.
Attentat de Londres. Après les attaques manquées à Londres et Glasgow la semaine dernière, la Grande-Bretagne commémorait samedi les attentats du métro de Londres, c'était en 2005. Le nouveau Premier ministre britannique Gordon Brown était présent, ainsi que le maire de Londres Ken Livingstone et le maire de Paris Bertrand Delanoë en déplacement. Contrairement aux attentats de la semaine dernière qui n'ont fait aucune victime, les attaques de 2005 avaient fait 56 morts. Eurovignette. François Fillon l'a annoncé mardi dans son discours de politique générale. La France va expérimenter en Alsace une eurovignette. L'eurovignette est une taxe appliquée aux poids lourds et harmonisée à l'échelle européenne. La taxe s'appliquera sur tout le territoire français, quel que soit le pays d'origine des poids lourds. La directive eurovignette, datant de 2005, n'a pas encore été transposée en droit français, ce qui est nécessaire pour qu'elle soit applicable. Européenne. La Commission européenne a présenté mercredi dernier un vaste plan de réforme de la politique de l'Union en matière de vignes. Les vins européens souffrent en effet de la concurrence, mais aussi de la surproduction. Le plan de la commissaire danoise à l'agriculture, Marianne Fischer-Boel, prévoit l'arrachage de 200 000 hectares de vignes avec des compensations pour les producteurs. La Commission souhaite également établir la liberté de planter des vignes au 1er janvier 2014 pour pousser le secteur à s'industrialiser. Les producteurs protestent car les vins européens reposent sur un système d'appellation d'origine contrôlée. Le ministre français de l'Agriculture, Michel Barnier, a déjà fait savoir que la France s'opposerait au texte. Les revenus des députés allemands en ligne. Le site du Bundestag, l'équivalent allemand de l'Assemblée nationale, annonce depuis jeudi les activités rémunérées des députés en dehors de leur mandat. Les parlementaires sont aussi tenus de déclarer leur tranche de rémunération. La loi de transparence, votée en 2005 sous le gouvernement précédent, ne distingue pas entre la source des revenus. Exercice d'une profession, lobbyisme, conseil, activité associative ou siège de surveillance d'une entreprise. La Cour constitutionnelle fédérale avait confirmé récemment la loi, très critiquée. En France, il est interdit aux députés d'exercer une profession dans le secteur privé, mais les parlementaires en exercice peuvent être profs ou cumuler les mandats, par exemple en étant député et maire.
Pour le début, relâchez-vous avec une chanson de Yacoustics, Wellenreiter.
Wellenreiter, reitet auf der Welle, aber kommt nicht weiter. Wellenreiter, reitet auf der Welle nur als Wegbegleiter. Wellenreiter, oh Wellenreiter.
geht's mir, aber kein Grund, dich zu müssen. Ich hab kein Bock, Erfolg mit Monologen zu büßen. Alle müssen es wissen, wie bislang ihr ihr Dasein küssen. Der Weg nach vorne ist steinig und auch lang die Wartelisten. Doch trau dich, bist du heimlich, sei ein Fighter und sei. Bleibst du Wellen weiter, bist du morgen schon frei.
Ich bin ein Reisender, seh mich nicht als Mittelpunkt der Welt. In meinem Leben gibt es mehr als nur Job und Geld. Seh mein Leben mit Rhythmus, Liebe in Unendlichkeit. Take it easy, brother, denn der Zug steht auch für dich bereit. Take it easy, brother, denn die Zeit ist reif. Du bist kein Wellenreiter, nein, du bist ein Menschenfreund. Yeah, das ist nicht Fantasie. Hier, Realität am Start.
Avec notre thème spécial pour aujourd'hui, l'Allemagne de l'Est et ailleurs. Goodbye Lenin, un film de Wolfgang Becker qui a connu un des plus grands succès du cinéma allemand contemporain. Ce film plut au public de deux Allemands par la description réaliste et simple de la vie quotidienne en Allemagne de l'Est. Ulrike vous présente la critique du film.
Le soir du 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe. Les Berlinois sont euphoriques. Mais ce n'est pas le cas pour tous les anciens habitants de Berlin-Est. Alexander Kerner vit avec sa mère et sa sœur dans un des grands immeubles de Berlin-Est. Sa mère, Christiane, est une femme d'environ 60 ans qui, depuis la fuite de son mari vers la Terre Sainte à l'Ouest, s'est mariée avec la patrie socialiste. Deux jours avant la chute du mur de Berlin en octobre 1989, la mère d'Alexandre assiste malgré elle à une confrontation violente entre la police et des manifestants pour la liberté de la presse. Dans la masse des manifestants, la socialiste convaincue reconnaît son fils, Alexandre, que des policiers viennent d'arrêter violemment. Le choc est tel que Madame Kerner a un infarctus. Dans son coma long et profond, Christiane Kerner ne s'aperçoit ni de la chute du mur de Berlin, ni de l'arrivée du capitalisme. Lorsque la patiente se réveille 8 mois plus tard, le monde qu'elle connaissait si bien n'existe plus. Les deux enfants de Madame Kerner considèrent rapidement que la réunification sera un choc trop grand pour leur mère. Alexandre et Ariane décident donc de la garder dans leur appartement où ils essayent de reconstituer la vie en RDA. Mais garder les apparences du système communiste se montre plus difficile que prévu. La réunification a tout changé. Les produits et les vêtements sont différents et des publicités de Coca-Cola sont affichées partout dans la ville. Mais dans la chambre de Christiane Kerner, la RDA revoit le jour. Entre-temps, Alexandre tombe amoureux de Lara, une infirmière russe qui commence rapidement à critiquer le monde de mensonges construit par Alexandre. Mais Alexandre n'est pas le seul à mentir. Goodbye Lenin est le film allemand le plus connu sorti ces derniers temps. Il a gagné de nombreux prix de cinéma comme le César. L'acteur principal, Daniel Brühl, quant à lui, a pu commencer sa carrière avec ce film. Le succès est notamment dû à l'humour présent tout au long de l'histoire. Mais Goodbye Lenin est un film qui touche aussi le cœur du spectateur. Même en se déroulant en Allemagne de l'Est, Goodbye Lenin n'est pas seulement un film pour des gens qui ont vécu ou survécu à une dictature. Le réalisateur Wolfgang Becker montre que sous n'importe quel régime, les gens ont une vie quotidienne normale. On comprend bien l'insécurité des anciens habitants de l'Allemagne de l'Est face au monde inconnu qui s'ouvre à eux si brusquement. C'est une des forces du film de rendre compréhensible la nostalgie des anciens habitants de la RDA. 17 ans après la réunification, le film a permis aux deux Allemagnes de réfléchir sur leur passé. Cet esprit mélancolique se retrouve aussi dans la bande sonore du film. La musique est faite par Jan Tiersen, le compositeur de la musique du film Amélie Poulain. C'est cette musique mélodique, calme, mais en même temps bouleversante, qui rend le film encore plus attachant. Elle reste encore dans la tête quand le film est déjà fini. Kotpa Lénine a été considéré comme un des meilleurs films allemands. Ce n'est pas pour rien. Moi, en tant qu'allemande, je peux juste conseiller d'aller le voir. Il vaut sûrement le coup.
En 1988, le cinéma découvrait la délicatesse touchante qui émane de la musique de français Jan Tiersen. Après avoir fait la BO de Amélie Poulain, Jan Tiersen s'est lancé dans son projet de bande originale le plus personnel et abouti à ce jour, pour les besoins de Goodbye Lenin. Écoutez maintenant Jan Tiersen avec son morceau First Rendezvous. Bien chez Europe 'n Roll sur Radio Fadjet. On reste encore sur le thème de Goodbye Lenin. Le monteur du film, Peter R. Adam, était aussi présent pour l'ouverture du Cinefleuve. La liste de films qu'il a montés est longue. Comedian Harmonist, Le 9e jour, Particules élémentaires, Ulzan de Volker Schlöndorff. Ulrike a parlé avec lui.
Je suis au festival Cinefleuve avec Monsieur Peter R. Adam, le monteur du film allemand Goodbye Lenin. Monsieur Adam, lors du montage de ce film, avez-vous pensé qu'il aurait un tel succès et qu'il sera même traduit dans d'autres langues et montré à un festival comme celui-ci?
Non, lors du montage, on n'avait pas du tout pensé à ça. En effet, il y avait une première projection devant des critiques de films à Berlin, et eux, ils ont dit « Oh, ça ne marche pas du tout, il vous faut encore beaucoup de travail ». Et la raison de cette réaction, c'était que ce film réunit plusieurs genres différents. Mais une semaine plus tard, on a fait une projection test devant un public normal, et là, les gens nous ont applaudi avec des standing ovations, ils sont montés sur les tables, ils ont tambouriné, et à ce moment-là, on s'est dit que ce qu'on a fait ne pouvait pas être si mauvais.
Et pour quelles raisons montrez-vous le film lors de ce festival ?
Ce festival est un festival des régions, et moi je suis né en Rhénanie-Palatinat, et j'ai vécu un certain temps dans la Sarre. C'est grâce à cela que les organisateurs ont eu l'idée de m'inviter, ce qui est un grand plaisir pour moi. Goodbye Lenin est d'un côté le film que je préfère de tous les films que j'ai montés, et de l'autre côté, il montre beaucoup de notre culture allemande.
C'est intéressant que Goodbye Lenin soit votre film préféré. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Le film ne peut pas être classé dans un seul genre, et c'est justement ça que j'adore. Il fait rire et pleurer en même temps, mais il fait également réfléchir les gens. Rendre tout ça possible par un seul film, c'est le plus grand succès qu'on puisse obtenir. La culture est également importante dans le film. Il montre des gens de l'Allemagne de l'Est qui ne sont pas intéressés à la politique et qui ont juste vécu là-bas. On ne peut pas supposer que tout le monde s'intéresse à la politique. Les gens vivent leur vie dans un pays qu'ils ont trouvé comme ça au moment de leur naissance. Et d'un coup, quelqu'un de l'extérieur arrive et dit « Hey, c'était tout faux. Maintenant, il faut que vous viviez dans un autre pays, dans une autre culture. » Et moi, je trouve que le film montre bien ce qui se passe à un tel moment.
Est-ce que vous ne vous êtes pas inquiété que le film pourrait peut-être montrer une image trop positive de l'Allemagne de l'Est, surtout pour une génération comme la mienne qui n'a jamais connu la RDA ?
Le film ne présente pas une vue politique de l'Allemagne de l'Est. Le film parle de la famille, des mensonges, de la tragédie humaine. Cela n'a rien à voir avec la politique, en fin de compte. Bien sûr que le film peut être critiqué parce qu'il se déroule dans un régime qui était détestable, qui était le système d'une dictature. Mais cependant, on ne peut pas dire que c'était les gens qui y vivaient qui étaient mauvais juste parce qu'ils étaient nés dans ce système. C'est la dictature qui était mauvaise. Il faut aussi voir que Wolfgang Becker a fait exprès de choisir le personnage de la mère comme une femme engagée, mais qui ne travaillait justement pas pour le Parti communiste. C'était un point important pour pouvoir montrer qu'elle avait bien des idéaux de gauche, mais qu'elle ne suivait pas aveuglément le régime.
Merci beaucoup, Monsieur Adam. Et nous, on va donc aller voir le film.
Et maintenant, une chanson rock'n'roll, un groupe incontournable dans les festivals pop-rock en Allemagne. Die Sportfreunde Stille avec Wunderbaren Jahren.
In all den wunderbaren Jahren, in denen ich nur knapp ja nur meine Haare spitze frei, war wohl noch nicht bereit, daran vorbeigeschlittert bin. Mit geschlossenen Augen und eingesperrtem Sinn, mit einem Herz, das wohl zu lang auf Eis gelegen hat, oder was die Gelegenheit, die gefehlt hat. In all den Jahren, in all den wunderbaren Jahren, in all den wunderbaren Jahren, in all den wunderbaren Jahren. Oh nein, 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 es waren doch scheinbar große Nächte. Sein. Können ja, müssen bei uns zwei. Wir mit unseren Ideen, mit unseren Träumen, wir haben's schon vor uns gesehen. Wir haben allzu viel erhofft und leider nichts getan, wie so oft in all den wunderbaren Jahren. In all den wunderbaren Jahren. Wunderbaren Jahren.
Lénine à l'autre canal, on a demandé leur avis aux gens.
Nous sommes avec
Kataline
et
Virag.
Vous venez de voir le film Goodbye Lénine, qu'est-ce que ça vous a inspiré?
On est un peu concernés parce qu'on vient d'un pays qui a vécu à peu près la même chose que l'Allemagne de l'Est, donc ça nous a beaucoup plu.
Vous venez de
Hongrie. C'était très très intéressant de voir un film avec la même histoire que notre pays dans une forme un peu humoristique.
Toujours à l'autre canal, on est maintenant avec Nathalie et Pauline qui viennent aussi de voir Goodbye Lénine. Les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Je trouve qu'il traite d'un sujet dont on parle pas beaucoup. Puis je regarde pas souvent des films allemands, donc c'est à peu près le seul film allemand qui est très connu chez nous.
Est-ce qu'il faut être allemand pour avoir aimé Goodbye Lénine?
Moi, je pense pas parce que c'est une histoire qu'on connaît depuis le lycée, qu'on nous apprend. Et justement, c'est bien de voir ça concrètement avec un film, avec une histoire.
Bah, je pense que le succès tient beaucoup par l'humour du film. Toutes les blagues qu'on peut voir avec Coca-Cola, tout ça, qui peuvent plus nous toucher, nous, en tant que spectateurs. Je pense que le succès vient de tout ça.
Europe & Roll à l'autre canal après la projection de Goodbye Lenin et nous sommes maintenant avec Aude. Est-ce que tu as aimé le film ?
Oui, j'ai beaucoup aimé le film, mais je pense que ce qui m'a un petit peu déçu, c'est le côté un peu mélo, un peu fleur bleue peut-être. Mais après, l'histoire est vraiment intéressante et puis c'est bien de refaire un tour sur l'histoire comme ça, je trouvais ça vraiment bien. Si j'étais prof d'histoire, j'aurais emmené mes élèves à aller voir ce film, en remettant tout à fait les choses à leur place évidemment, mais voilà, je trouve ça pas mal quand même.
Merci. Nous sommes maintenant avec Vladimir et Octave. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du film Goodbye Lenin que vous venez de voir ?
Alors sans faire de politique, moi j'ai vu deux choses. Déjà, l'amour inconditionnel d'un fils pour sa mère, et ce qu'il est capable de faire pour ça. Et la conclusion au final, c'est on se demande quel est le plus socialiste dans le tas. C'est-à-dire si c'est pas le fils qui a grandi avec ces valeurs-là et qui au final ne les applique pas dans une vision peut-être un petit peu plus humaniste justement que purement politique. Et sinon, il y a la séquence absolument formidable de la statue de Lénine qui s'envole dans les airs. Et c'est la deuxième fois que je vois ce film et ça me touche toujours autant.
Europe & Roll, toujours à l'autre canal, nous sommes maintenant avec Ute Grauerholz, qui est directrice du Goethe-Institut. Madame Grauerholz, comment le film Goodbye Lénine a-t-il été choisi pour ce festival ?
On voulait avoir un film qui pourrait trouver l'intérêt de beaucoup de gens et... J'ai l'impression que c'était vraiment un bon choix. Pour les uns des gens de la RDA, c'est un peu de nostalgie là-dedans et une façon de travailler le passé. Pour les gens de l'Ouest qui savaient et savent toujours très très peu de la RDA, ça leur donne une idée. Mais c'est pas trop sérieux parce que c'est une comédie. Quand le film sortait, ma première réaction était que c'est pas les uns contre les autres, mais il y a une touche réconciliante dans ce film.
Il n'y a pas de meilleure musique pour écouter en été. Un pique-nique au parc avant sortir, l'odeur des airs, un verre de vin, et ensuite, Freundeskreis en live.
Ich fühle mich gut und meine Kumpels sind nicht gewohnt. So was habt ihr nie gesehen. school mistro.
Need to get caught up with gang as a shit.
Yo, shit, so I check out the clothes and get it out of there. I'm in the trance, I'm gonna know my shit. That's just my name, Mr. P, my name, Lady T. That's for me, me, shot, so I'm a penny, she do for me, cookie.
Goodbye Lenin, dont on a parlé, il faut mieux expliquer le terme « nostalgie ». Cette expression dessine les regards en arrière sur des éléments de la vie de tous les jours dans l'ancienne République démocratique allemande. Maxime vous donne une vue objective sur le phénomène de « nostalgie » sans fausse glorification.
Que diriez-vous d'un café Mokafix ou de cornichons de Spreewald? Si vous n'avez aucune idée de ce dont il s'agit, c'est que vous n'avez jamais vécu en Allemagne de l'Est. Pourtant, l'Allemagne connaît en ce moment un regain d'intérêt pour le passé communiste de la RDA. On parle d'ostalgie. Ce mot désigne la nostalgie de certains Allemands pour l'époque soviétique. Un peu d'histoire. Avant la chute du mur de Berlin, le 3 octobre 1989, l'Allemagne était divisée en deux pays. À l'ouest, la RFA sous influence occidentale, et à l'est, la RDA, un pays socialiste sous influence soviétique. En 1990, l'Allemagne se réunifie. La République fédérale s'étend aux régions de l'Est. La RDA doit alors accepter le modèle économique occidental. Mais ce changement brutal a des conséquences considérables sur la vie en Allemagne de l'Est. Auparavant existait une certaine égalité homme-femme, le chômage était quasi inexistant et la santé gratuite. La réunification, au départ pleine de promesses, a en fait beaucoup déçu ceux qui ont connu l'époque communiste. Certains regrettent aujourd'hui cette période. Mais ce phénomène est ambigu. En effet, il ne faut pas oublier que la RDA était une dictature. Le film « La vie des autres », récemment oscarisé, l'a d'ailleurs rappelé en racontant l'histoire d'un agent de la police politique de l'époque, la Stasi. En Allemagne de l'Est, les libertés fondamentales et les droits de l'homme n'étaient pas respectés. D'ailleurs, le film « Goodbye Lenin » montre bien la répression des manifestations d'opposants. Les élections n'étaient pas non plus démocratiques. Le phénomène de nostalgie laisse donc perplexe. Il est en effet étrange d'être nostalgique d'une dictature. Cependant, certains Allemands disent préférer un pays, certes dictatorial, mais qui assurait une société plus égale. La nostalgie de l'Est a donc ses adeptes. On organise même des nostalgie parties, où les participants se replongent dans l'époque communiste, musique et vêtements compris. On ressort les vieilles Trabant ou Trabi, des voitures fabriquées en Allemagne de l'Est et célèbres pour leur délai de livraison, parfois plus de 10 ans. Mais nostalgie est surtout un phénomène de mode qui touche principalement la génération qui n'a pas connu le régime. Sur les marchés aux puces de Berlin ou de Leipzig, vous pourrez même trouver des t-shirts siglés RDA ou des CD des chœurs de l'armée rouge. Des gadgets lourds de sens avec un message caché dont les acheteurs ne sont pas forcément conscients.
Pour tous les gens qui ne savent pas trop d'où ils sont, on a trouvé quelques mots du poète allemand Bertolt Brecht. Je suis assis au bord de la route, le chauffeur change une roue. Je ne me sens pas bien là d'où je viens, je ne me sens pas bien là où je vais. Pourquoi est-ce que j'observe le changement de roue avec impatience? Mais parce que regarder en arrière ne doit pas empêcher d'aller de l'avant, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. On parlera des projets dingues comme traverser l'Europe en autostop. Alors restez fidèles à Europe and Roll sur Radio Fudget. Mel Mel vous souhaite une bonne semaine. Goodbye, goodbye.